Chapitre 19. Ils se regroupèrent à l'entrée de la vallée, Brown Lamia et Martin Silenus chargés d'autant de sacs et de paquetages qu'ils pouvaient emporter, Sol Weintraub, le consul et le père Duré, aussi raides et silencieux que les juges d'un tribunal de patriarches. Les premières ombres de l'après-midi commençaient à se profiler vers l'est dans la vallée, comme les doigts d'une main ténébreuse tendue vers l'éclat faiblement luminescent des tombeaux du temps.
« Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de nous diviser ainsi, » fit le consul en se frottant le menton.
Il faisait une chaleur torride. La transpiration s'agglutinait sur ses joues mal rasées et ruisselait le long de son cou. Lamia haussa les épaules.
« Nous savions très bien, » dit-elle, « que chacun de nous aurait à affronter le Gritch tout seul. Quelle importance si nous nous séparons pour quelques heures. Nous avons besoin de ces vivres. » Mais venez avec nous tous les trois si vous préférez. »
Le consul et Sol se tournèrent vers le père Duré. Il était visiblement au bord de l'épuisement. D'avoir cherché Cassade avec les autres l'avait privé des quelques réserves d'énergie qui lui restaient à la suite de son épreuve.
« Il vaut mieux que quelqu'un reste ici, pour le cas où le colonel reviendrait, » déclara Sol.
Le bébé dans ses bras était devenu encore plus petit. Lamia hocha la tête pour signifier son accord, et remonta les bretelles de son paquetage sur ses épaules.
« Très bien. Il faut compter 2 bonnes heures pour arriver à la forteresse, et un peu plus pour le retour, plus 1 heure là-bas pour trouver et charger les vivres. La nuit ne devrait pas être encore tombée quand nous reviendrons. Nous dînerons tous ensemble. »
Le consul et Duré serrèrent la main de Silenus. Sol serra Brown dans ses bras.
« J'espère qu'il ne vous arrivera rien, »
murmura-t-il. Elle toucha la joue barbue du vieillard et posa la main sur la tête du bébé. Puis elle se détourna et s'éloigna rapidement du groupe.
« Hé ! On ne m'attend pas !»
glapit Silenus, qui s'élança à sa poursuite dans un bruit de gourdes et de gamelles accrochées un peu partout à ses sacs. Ils arrivèrent ensemble au col. Silenus regarda derrière lui. Les 3 autres étaient toujours là. Rendu petit par la distance, seule tache de couleur parmi les dunes et les rochers qui entouraient le sphinx.
« Les événements ne se déroulent pas tout à fait comme prévu, n'est-ce pas »
dit-il.
« Je ne sais pas, » fit Lamia. « Qu'est-ce qui était prévu exactement ?»
Elle s'était mise en short pour marcher et les muscles de ses petites jambes puissantes luisaient sous une pellicule de transpiration.
« Pour ma part, tout ce que je voulais, c'était finir le plus grand poème de l'univers et puis rentrer chez moi. »
lui dit Silenus. Il but à la dernière gourde où il restait de l'eau.
« Merde !»
fit-il.
« Je regrette de n'avoir pas apporté plus de vin. »«
Moi, je n'avais rien prévu de particulier, »
murmura Lamia, à moitié pour elle-même, ses courtes boucles, collées par la transpiration, dissimulant à demi son cou trapu. Martin Silenus eut un rire rauque.
« Vous ne seriez pas ici s'il n'y avait pas eu ce cyborg, votre amant. »«
Mon client, » fit-elle sèchement.
« C'est la même chose. L'idée qu'il était important de venir ici émanait à l'origine de la personnalité récupérée de Johnny Keats. Bon, vous avez réussi à l'amener jusqu'ici. Vous portez toujours cette boucle de Schrön, n'est-ce pas ?»
Elle toucha machinalement la minuscule dérivation neurale derrière son oreille gauche. Une fine membrane de polymère osmotique empêchait le sable et les poussières de s'introduire dans l'orifice crânien de la taille d'un follicule.
« Oui, »
répondit-elle. Silenus émit un nouveau rire.
« À quoi ça peut vous servir, ma pauvre fille, dans un foutu endroit où il n'y a pas d'infosphère pour s'interfacer? Vous auriez aussi bien pu laisser votre Johnny sur l'Usus ou n'importe où ailleurs. À moins que vous n'ayez un autre moyen d'entrer en contact. »
fit-il soudain en s'arrêtant pour ajuster les bretelles de son paquetage. Lamia songea au rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Elle avait eu l'impression de sentir la présence de Johnny. Mais les images étaient celles du Rhett.
Des souvenirs ?
Non,
dit-elle.
Je suis incapable d'avoir accès à ma boucle de Schrön. Elle contient plus de données que sans implants normaux ne pourrait en recevoir. Maintenant, taisez-vous et marchez.
Elle reprit le sentier d'un pas vif, le laissant derrière elle. Le ciel était sans nuages, viride, barré de striures lapis. La plaine jonchée de blocs rocheux devant eux s'étendaient en direction du sud-ouest jusqu'aux terres désolées qui laissaient place, à leur tour, aux dunes. Ils marchèrent en silence durant une demi-heure, séparés par 5 mètres et par leurs pensées. Le soleil d'Hyperion était une petite boule brillante sur leur droite.
« Les dunes sont plus espacées que la dernière fois »,
dit Lamia tandis qu'ils arrivaient au sommet de l'une d'elles pour se laisser glisser ensuite sur l'autre versant. Le sable était brûlant et leurs chaussures en étaient remplies. Silénus demeura assis au bas de la pente pour souffler un peu et s'éponger le visage à l'aide d'un mouchoir de soie. Son béret pourpre était enfoncé sur ses sourcils et son oreille gauche, mais n'offrait à son visage aucune protection contre le soleil.
« Il serait plus simple de faire un détour par les plateaux du Nord et la cité des poètes, » murmura-t-il en pointant l'index.
Brown Lamia mit sa main en visière sur son front pour suivre son regard.
« Il nous faudrait au moins une demi-heure de plus, »
dit-elle.
« En passant par les dunes, nous risquons de perdre bien plus de temps que cela. »
Le poète but une gorgée d'eau à sa gourde, ôta sa cape, la plia et la fit entrer dans son sac le plus gros.
« Qu'est-ce que vous transportez là-dedans ? »
lui demanda Lamia.
« On dirait qu'il est déjà plein. »«
Ce ne sont pas vos putains d'affaires, ma petite dame. »
Elle secoua la tête, se frotta les joues et sentit le coup de soleil qui lui cuisait la peau. Elle n'avait pas l'habitude de s'exposer si longtemps et l'atmosphère d'Hyperion ne filtrait que très peu d'ultraviolet. Elle chercha dans ses poches le tube de crème solaire et s'en mit un peu partout sur le visage.
« D'accord, »
déclara-t-elle.
« Nous ferons le détour. Nous allons suivre la ligne des crêtes jusqu'à ce que nous ayons dépassé le gros des dunes. Ensuite, nous irons droit sur la forteresse. »
Les montagnes étaient basses sur l'horizon et leur distance ne semblait jamais varier. Les sommets couronnés de neige lui offraient leurs promesses cruelles d'eau fraîche et de brise glacée. La vallée des tombeaux du temps était invisible derrière eux, cachée par les dunes et les rochers. Lamia changea la répartition des sacs sur ses épaules, obliqua vers la droite et se laissa glisser en faisant de grandes enjambées sur le versant instable de la dune. Quand ils quittèrent les sables pour grimper sur la crête couverte d'ajoncs et de genêts épineux, Martin Silénus ne put détacher son regard de la cité des poètes abandonnée. Lamia avait coupé un peu plus sur la gauche, évitant tous les obstacles à l'exception des pierres des anciennes chaussées à moitié ensevelies, qui faisait tout le tour de la cité et menait vers le désert où elle disparaissait sous les dunes. Silénus prenait de plus en plus de retard sur elle. Il finit par s'arrêter pour s'asseoir sur une colonne brisée, qui avait peut-être jadis fait partie d'un portique sous lequel passaient, chaque soir, les travailleurs androïdes qui revenaient de leur journée de labeur aux champs. Il ne restait plus aucun vestige des champs en question. Les emplacements des aqueducs, des canaux et des routes étaient marqués par des amoncellements de pierres, des dépressions dans le sable, ou des souches d'arbres à moitié ensevelies à l'endroit où elles avaient peut-être jadis bordé une voie d'eau ou donné de l'ombre à une paisible allée. Le poète se servit de son béret pour s'éponger le visage, tout en contemplant les ruines. La cité était toujours aussi blanche, de la même blancheur que les ossements parfois découverts par les dunes, ou que les dents au milieu d'une tête de mort terreuse. De l'endroit où il se trouvait, Martin Silénus put constater que de nombreux bâtiments n'avaient presque pas changé depuis l'époque où il les avait vus pour la dernière fois, plus d'un siècle et demi auparavant. L'amphithéâtre des poètes était toujours là, inachevé mais imposant, même en ruine, colisée d'un autre monde, envahi de lierre du désert et de vignes vierges. Le grand atrium était ouvert sur le ciel, les galeries défoncées, non pas par le temps, Silénus le savait, mais par les projectiles, les roquettes et les charges explosives des inutiles gardes de la sécurité du roi Billy le Triste, au cours des décennies qui avaient suivi l'évacuation de la cité. Ils avaient juré d'avoir la peau du Gritch. Ils voulaient tuer Grendel à coups rageurs d'électronique et de lumière cohérente après qu'il eût dévasté le grand hall du château. Silénus laissa échapper un rire gloussant et se pencha en avant. La tête lui tournait soudain à cause de la chaleur et de l'épuisement. Il voyait le dôme de la maison commune où il avait pris ses repas, tout d'abord avec des centaines d'artistes comme lui, puis en silence et seul parmi une poignée d'autres qui avaient choisi de rester,
pour d'obscures raisons à eux, après l'évacuation vers Kitts décidée par Billy, puis véritablement tout seul, le dernier. Un jour, il avait fait tomber une coupe et le grand hall avait résonné durant une bonne demi-minute sous la coupole ornée de graffitis par les plantes grimpantes. Seul avec les Morlocks, songea-t-il. Mais il n'avait même pas eu la compagnie des Morlocks vers la fin. Il n'avait eu que sa muse. On entendit une soudaine explosion de battements d'ailes, et une vingtaine de colombes s'envolèrent de quelques brèches parmi les ruines des tours qui avaient autrefois fait partie du palais du roi Billy. Silénus les vit décrire des cercles dans le ciel surchauffé, et se demanda par quel miracle elles avaient pu survivre ici, au bout de nulle part, durant plus d'un siècle. Si j'ai pu le faire, pourquoi pas elle? Il y avait des coins d'ombre dans la cité, des oasis de fraîcheur et de calme. Il se demandait si l'eau des puits était encore bonne. Les réservoirs géants avaient été installés sous terre avant même l'arrivée des premiers vaisseaux d'ensemencement. Il se demandait également si sa table de travail en bois, une antiquité fabriquée sur l'ancienne terre, se trouvait toujours dans la petite pièce qui lui avait servi à écrire la majeure partie des cantos.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Brown Lamia qui était revenu sur ses pas à sa recherche.
« Rien !»
grogna-t-il en lui lançant un regard oblique. Elle ressemblait à un arbre trapu, une masse solidement implantée sur ses racines, à l'écorce brûlée par le soleil, à l'énergie figée. Il essaya de l'imaginer épuisé. Cet effort l'épuisa lui-même.
« Je viens de m'apercevoir, » reprit-il, « que nous perdons notre temps à vouloir aller jusqu'à la forteresse alors qu'il y a des puits dans cette cité et probablement des réserves de nourriture aussi.
»
fit Lamia en hochant la tête.
« Nous en avons discuté avec le consul. Plusieurs générations se sont occupées de piller ces lieux. Les pèlerins du Gritch ont dû ramasser les dernières miettes il y a une soixantaine d'années. Les puits ne sont pas sûrs. La couche aquifère a bougé, les réservoirs sont probablement contaminés. Il faut continuer jusqu'à la forteresse. »
Silénus sentit monter en lui une sourde colère devant l'insupportable arrogance de cette femme qui croyait pouvoir s'arroger le commandement dans n'importe quelle situation.
« Restons quand même quelques minutes pour voir ce qu'il y a à prendre, » dit-il. « Cela peut nous économiser des heures de voyage. »
Elle s'interposa entre le soleil et lui, créant une éclipse qui entoura ses boucles noires d'un halo.
« Pas question. Si nous nous attardons ici, nous ne pourrons jamais rentrer avant la tombée de la nuit. »«
Continuez toute seule dans ce cas !»
lança le poète, lui-même surpris de ce qu'il disait.
« J'en ai assez. Je connais des endroits où il y a peut-être des vivres que personne n'a découvert. »
Il la vit se raidir, comme si elle envisageait de l'entraîner de force. Ils avaient accompli à peine un peu plus du tiers du chemin. Mais les muscles de Lamia se détendirent lorsqu'elle murmura
« Les autres comptent sur nous, Martin. Je vous en prie, ne faites pas tout rater. »
Il se laissa aller en arrière contre la colonne renversée et éclata de rire.
« Rien à foutre !» dit-il. « J'en ai marre !»« De toute manière, vous savez très bien que c'est vous qui allez porter 95% de la marchandise. »« Je suis trop vieux, ma fille. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » « Je veux rester ici un moment. Si je ne trouve pas de provisions, j'aurais peut-être envie d'écrire quelques pages. »
Lamia s'accroupit à côté de lui et posa la main sur son paquetage.
« C'est donc cela que vous transportez là-dedans. Les feuillets de votre poème, les cantos. »
« Évidemment. »
« Et vous êtes toujours persuadé que la proximité du Gritch vous aidera à les finir. »
Il haussa les épaules. La chaleur et la fatigue lui faisaient tourner la tête.
« Ce monstre est un tueur. Un Grendel de métal issu des forges de l'enfer, »
murmura-t-il.
« Mais c'est ma muse. »
Elle soupira. Le soleil était déjà en train de décliner vers les montagnes. Elle se tourna pour regarder le chemin qu'ils avaient parcouru.
« Retournez là-bas, » dit-elle, « dans la vallée. « Je vous raccompagne si vous voulez, »
ajouta-t-elle après un bref moment d'hésitation.
« Je me débrouillerai pour revenir toute seule ensuite. »
Le poète lui sourit de ses lèvres gercées.
« Pourquoi je retournerai là-bas ? pour faire une belote avec trois autres vieillards jusqu'à ce que la bête vienne nous border. Très peu pour moi. Je préfère rester travailler ici. Continuez votre chemin, ma fille. Vous êtes capable de porter la charge de trois poètes réunis. »
Il dégagea les bretelles de ses sacs et de ses gourdes et les lui tendit. Elle les prit dans un poing aussi serré et aussi dur que la tête d'acier d'un marteau.
« Vous êtes sûr? Nous pourrions marcher doucement. »
Il se mit debout en un soudain effort, stimulé par la haine que lui inspiraient la pitié et la condescendance de cette femme.
« Allez vous faire foutre, vous et la putain de monture qui vous a amené jusqu'ici, ma petite dame. Au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que le but de ce pèlerinage était d'arriver jusqu'ici pour dire un petit bonjour au Gritch. Votre ami Hoyt ne l'a pas oublié. Cassad a très bien compris le jeu. Ce putain de Gritch, à l'heure qu'il est probablement en train de lui ronger ses os débiles de militaire. » Je ne serais pas surpris si ceux que nous avons laissés là-bas n'avaient plus du tout besoin de nos trônes ni de nos provisions de merde. Mais continuez toute seule et foutez-moi la paix une fois pour toutes. J'en ai ras le cul de votre compagnie. »
Bran Lamia demeura accroupie quelques instants, les yeux levés vers lui. Puis elle se redressa, lui toucha l'épaule une brève seconde, mit les sacs et les gourdes sur son dos avec les siens et s'éloigna d'un pas si rapide qu'il n'aurait jamais pu la suivre, même dans sa jeunesse.
« Je repasserai par ici dans quelques heures !»
lui cria-t-elle sans même se retourner.
« Soyez dans les environs. Nous retournerons ensemble dans la vallée des tombeaux. »
Martin Silenus ne répondit pas. Il la regarda devenir toute petite, puis disparaître au loin dans les terres accidentées du sud-ouest. Les montagnes étaient entourées d'un halo de chaleur. Baissant les yeux, il s'aperçut qu'elle lui avait laissé leur dernière gourde. Il cracha par terre, mit la gourde dans le seul sac qu'il avait conservé et s'éloigna en direction des ombres de la cité morte.